Alors, puisque les chrétiens ont pris l'habitude de profiter du solstice d'hiver pour s'ouvrir un peu plus au salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ, je vous propose ce matin de suivre un personnage dont nous parle l'Évangile selon Luc, Siméon, qui attendait si bien le Sauveur qu'il a vraiment pu l'accueillir dès sa naissance, qui a été le premier pour vraiment le prendre dans ses bras, le saisir et comprendre qu'en lui était le salut. Alors c'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, à partir du verset 25. Voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit Saint, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, il bénit Dieu et il dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et la résurrection de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœur soient révélées. » Alors, pour que notre attente puisse vraiment s'ouvrir dans cette attente véritable qu'est celle de Siméon, je vous propose d'entendre au chapitre 52 du livre du prophète Ésaïe, les 10 premiers versets qui nous appellent à nous ressusciter, à nous réveiller pour vraiment recevoir le salut qui vient de la part de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcision ni impureté. Secoue ta poussière, relève-toi et assieds-toi, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, ô captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. D'abord, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima pour rien. Et maintenant, qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, oracle de l'Éternel, et tout le jour mon nom est blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle, me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonnes nouvelles, celui qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles qui publie le salut et qui dit à Sion, « Ton Dieu règne vraiment ». C'est la voix de tes sentinelles, elles élèvent maintenant la voix. Elles poussent ensemble des cris de triomphe, car de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion, éclater ensemble en cris de triomphe, ruine de Jérusalem. Car vraiment l'Éternel console maintenant son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à méditer sur ce Siméon qui incarne l'attente du salut de Dieu, je vous propose de chanter le cantique 89 dans Louange et prière, le recueil bleu, les deux strophes de ce cantique de Siméon. Laisse-moi désormais, Seigneur, aller dans la paix. 89. Ô notre Dieu, tu donnes ton esprit pour que nous ne croyions pas seulement que tu es vivant, mais que nous sentions vraiment ta présence, une présence vivifiante qui nous engendre, qui nous guérit, qui nous ressuscite. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de force. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume, un royaume de justice et de paix, en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance, de notre foi, de notre salut, nous te cherchons dans l'écoute de ta parole. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Avec ces quelques mots, nous avons une description de cet homme qui représente le type même de celui qui attend le Christ, le Sauveur. L'Évangile nous parle de lui pour nous dire comment nous pouvons nous-mêmes, à notre tour, concrètement, attendre le salut de Dieu, le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Comment nous pouvons nous préparer à voir et même à saisir ce salut dans nos bras, dans notre existence, salut comme Siméon peut recevoir l'enfant Jésus au temple de Jérusalem. Siméon attend un salut qui le dépasse, mais un salut très concret qui concerne la vie en ce monde, pas seulement une espérance utopique pour un monde futur. Il y a là, je crois, quelque chose d'essentiel pour vivre, attendre un salut. Cette qualité d'attente, avant même d'entrer plus avant dans le texte de l'Évangile, me semble devoir être remarquée. Cela demande trois choses. D'abord, de constater qu'il y a un manque dans notre existence. Ensuite, que nos propres forces ne suffisent pas pour y remédier. Et enfin, que la situation n'est pourtant pas désespérée. Alors, le premier point essentiel, je crois, de l'attente, je crois qu'on peut y travailler afin de reconnaître qu'il y a un manque dans notre existence. Et c'est pour ça qu'il y a systématiquement une confession des péchés dans le culte. Ce n'est pas une menace, car le culte commence toujours, nous l'avons encore entendu ce matin, par l'annonce de l'amour de Dieu, amour qu'aucun péché, aucune insuffisance ne peut réduire. Et cette confession du péché, elle n'a pas pour but, bien sûr, de nous culpabiliser ni de nous humilier, mais tout simplement de nous aider à espérer un progrès, à espérer avec clairvoyance, avec patience, sans découragement aucun, ni culpabilisation, en sachant que Dieu est là pour nous aider à avancer. C'est donc dans l'espérance que nous confessons nos péchés, et nous confessons nos péchés justement pour entrer dans une espérance qui nous dépasse. Alors nous pouvons reconnaître des gaffes que nous avons faites. Ça peut commencer par là, effectivement, comme un médecin se penche d'abord sur les symptômes. Mais l'essentiel, c'est plutôt d'ouvrir nos yeux sur notre manque de développement, sur un manque existentiel, spirituel, un manque dans notre être même. L'Évangile nous y invite sans nous culpabiliser quand il nous dit que nous sommes comme des enfants. On ne peut pas en vouloir à un enfant de n'être pas bien fort ni bien sage et de ne pas tout savoir. Nous pouvons donc tranquillement méditer sur notre besoin de progresser, prendre quelques minutes par exemple dans notre journée, à la fin de la journée par exemple, après des actes que nous avons commis ou que nous n'avons pas commis, prendre quelques minutes après notre semaine ou quand une année s'achève, pour prendre du recul, réfléchir, regarder. Cela pourrait être désespérant d'ouvrir les yeux sur notre insuffisance, mais pourquoi ce serait désespérant? Parce qu'effectivement, c'est presque impossible de se changer soi-même un tant soit peu. Même arrêter de fumer, ça paraît tout simple. Il suffirait de ne pas aller acheter de cigarettes ou de ne pas allumer ce petit cylindre en le mettant à sa bouche. Ça paraît tout simple. Mais pourtant, c'est une prouesse. Quand on mange un peu trop, qu'on est un peu trop gros, je ne sais pas pourquoi je parle de ça au moment du foie gras, mais c'est très difficile, je veux dire, de se dire « je vais manger un petit peu moins, je vais bouger un peu plus ». On sait que c'est une prouesse. Alors comment est-ce que celui qui a un triste caractère pourrait se forcer à voir la vie sous un jour meilleur, sous un angle plus positif? Comment celui qui est grognon, négatif, pourrait arriver à voir le bon côté des gens plutôt que leurs défauts? Comment le colérique pourrait se forcer à être plus posé et le nonchalant à retrouver du tonus? Mais notre confession du péché, elle n'est pas désespérante, car elle est face à Dieu, face au Créateur de la vie, face à celui qui est derrière cette incroyable dynamique d'évolution que l'on constate dans l'univers. Et ce Dieu, déjà, a priori, est plein d'admiration pour nous, plein de respect, plein de bienveillance et plein d'espérance aussi. Et donc notre confession du péché, dans un sens, c'est une auto-analyse, oui. Mais elle est inspirée par Dieu, ce Dieu qui peut nous ouvrir un petit peu les yeux sur la merveille que nous sommes déjà et sur la merveille encore plus merveilleuse que nous pourrions être demain. Et cette espérance que nous avons, elle repose sur nos forces présentes, qui sont déjà là, certes, mais aussi sur une force que nous n'avons pas encore et que nous attendons de Dieu comme un miracle, comme une genèse, comme une évolution qui vient du Créateur de la vie, nous débarrassant de certaines façons d'être qui nous parasitent aujourd'hui et nous donnant certaines qualités d'être qui nous permettraient de nous épanouir vraiment, pleinement, un peu plus demain. L'Évangile ne nous parle que de ce Siméon et d'Anne, dont je ne vous ai pas lu le récit, mais deux personnes qui attendaient le salut de Dieu. Les bergers dont on nous parle, elles n'attendaient pas particulièrement peut-être grand-chose, c'est par surprise que ça leur vient. Mais là, Siméon et Anne, ils attendaient le salut de Dieu. Alors deux personnes, c'est presque rien par rapport à tout un peuple, mais ça suffit. Et donc même si au plus profond de nous-mêmes, ou de qui que ce soit, il ne restait qu'une infime parcelle d'espérance en Dieu, eh bien c'est déjà bien et c'est déjà suffisant pour saisir ce vrai commencement que Dieu nous donne en Christ, ce commencement de salut radical, universel que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Alors suivons donc ce que nous dit Siméon pour entrer dans cette espérance. Le nom de Siméon est déjà un enseignement en soi, car Siméon veut dire celui qui écoute. Il est à l'écoute des promesses données dans la Bible, et ce ne sont pas pour lui des utopies, des choses abstraites pour se rassurer face à la rudesse de l'existence humaine en ce monde. Mais ce sont des promesses qui sont données pour que nous les saisissions, que nous les recevions maintenant, aujourd'hui, dans cette existence, en ce monde, nous et nos proches. Car, nous dit l'Évangile, le temps est venu, le temps de l'accomplissement de ces promesses. Siméon écoute, il prend ses promesses au sérieux et cela fonde sa façon d'être, avec une ouverture délibérée à l'action de Dieu dans sa vie. Le texte nous précise que c'est à Jérusalem que Siméon attend. Alors bien sûr, il s'agit là pour nous d'un symbole et nous n'avons pas à courir à Jérusalem pour aller recevoir le salut qui vient de Dieu. Le temple, c'est le lieu symbolique de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alors bien sûr, Jérusalem et son temple ne sont que des symboles de cette présence de Dieu. Car Dieu est une réalité concrète, mais sa présence n'est pas matérielle. Elle n'est donc pas localisée ici ou là. En fait, Jérusalem, ça symbolise plutôt la religion dans ce qu'elle a de très incarné, de très concret. Celle qui consiste à avoir des gestes pour laisser place à Dieu dans notre existence. Des rites, des cultes, des temps de prière ou de lecture de la Bible, qu'importe. Mais en tout cas, des instants délibérément volés à notre vie quotidienne, notre vie tout ordinaire, notre vie de nécessité ou de loisir, pour faire place concrètement au salut que Dieu veut nous donner. Mais avant que l'Évangile ne nous dise que Siméon était un homme juste et pieux, ou qu'il s'appelle même Siméon, l'Évangile nous dit que c'est un homme. Alors cela peut sembler anodin, peut-être qu'on n'en aurait pas fait attention, mais dans le texte original de la Bible, cette précision est lourde de sens. L'Évangile nous dit ainsi qu'il est un homme, même s'il n'était pas une personne qui écoute Dieu, même s'il n'était pas quelqu'un de juste ou de pieux ou qui cherche Dieu ou qui attend Dieu, il serait un homme de toute façon. Parce que ce nom d'humain nous est donné par grâce. Et même si nous claquions la porte au nez de Dieu, si je puis dire, cela ne ferait quand même pas de nous une bête. Car Dieu nous considère et nous considérera de toute façon toujours comme une personne humaine, comme son enfant bien-aimé, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Siméon est donc un homme, et même c'est un homme à l'écoute. Et le texte nous dit ensuite que c'était un homme juste et pieux. Il est un homme juste. Le fait d'avoir de l'espérance en Dieu ne lui enlève pas sa motivation d'agir dans le monde, au contraire, d'agir dans le monde pour que plus de justice règne en ce monde. Chercher à agir avec justice, c'est le premier stade, je crois, de l'espérance. C'est une espérance active. Pour cela, c'est un peu comme la confession du péché que je vous proposais tout à l'heure. Il faut d'abord avoir à réfléchir à une certaine idée de la justice. Puis, il faut regarder autour de soi et se sentir concerné par l'injustice dont souffrent les gens autour de soi. Et puis se sentir concerné par cela et agir concrètement pour les soulager un peu, comme on peut. Être juste, c'est de l'espérance active. La deuxième qualité de Siméon, la piété, elle prolonge cette façon d'être concrète par les actes. La piété, ou plutôt le respect de Dieu, c'est tenir une vraie relation à Dieu. Siméon est ainsi à sa juste place, appartenant au monde, conscient de sa présence dans le monde, du monde autour de lui, et se tenant devant Dieu. Sa notion de justice ne trouve pas alors son origine en lui-même, dans ses propres désirs. Elle n'est pas non plus fondée sur une idéologie, pas même sur la Bible, mais elle est en Dieu, dans une relation vivante, quotidienne, dynamique. Siméon est donc un homme juste et se tenant devant Dieu. La troisième dimension de l'espérance de Siméon, c'est d'attendre la consolation d'Israël. Il attend quelque chose qui dépasse ce que l'on peut espérer de l'activité humaine, qu'elle soit matérielle ou même spirituelle. Siméon est certain que Dieu va agir, mais cela ne le pousse pas à cesser d'agir en ce monde. Et je crois que ces deux dimensions sont complémentaires. Cela nous invite à réfléchir et à agir en ce monde comme si nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes, que sur nos propres forces. Et en même temps, cela nous invite à nous tourner vers Dieu comme si nous ne savions absolument rien et comme si nous ne pouvions rien faire par nous-mêmes, rien attendre de nous-mêmes. Il y a là quelque chose qui peut sembler paradoxal, mais c'est ce juste équilibre entre l'action et l'espérance, entre l'autonomie et la confiance en Dieu, entre l'estime de soi et l'humilité qui est la clé du salut. L'Esprit Saint était sur lui, nous dit enfin l'Évangile pour conclure ce portrait de Siméon. L'Esprit, c'est la dynamique de création de Dieu pour créer l'homme et pour lui donner d'être créateur lui-même. L'Esprit, nous dit la Genèse, est donné à toute personne humaine, qu'elle le sache ou non. C'est le principe même de l'humain. Mais comme le dit l'apôtre Paul, on peut attrister l'Esprit en soi. Eh bien, Siméon, lui, n'attriste pas l'Esprit. Il en est ouvert, il est ouvert à l'Esprit. Il est ouvert à ce qui vient du Créateur, à ce que le Créateur lui donne pour être Créateur lui-même, Siméon, à sa juste mesure, dans la justice, dans la piété et dans l'espérance. Alors la première dimension, c'est l'action juste. La deuxième, c'est de se tenir face à Dieu. Et la troisième dimension, c'est l'attente du secours de Dieu. Comme je le disais au début, cette attente du secours de Dieu, ça ne peut se faire que dans la confession du péché, pour reconnaître ce qui nous manque et l'incapacité de nous sauver par les seules ressources de l'humanité, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient intellectuelles ou même spirituelles. Mais il ne faut pas non plus exagérer, je crois, dans le domaine de la confession du péché, au point de perdre de vue ce que nous avons déjà de force, de sagesse, ce que nous avons comme foi aussi, comme relation à Dieu, pour être nous-mêmes créateurs de bonnes choses, source de justice. La clé de l'équilibre, je crois, entre la confession du péché et la connaissance de notre réelle valeur, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint. En effet, Dieu est l'idéal, il est le point ultime de notre développement, de notre cheminement. Alors en plaçant notre vie face à Dieu, nous pouvons reconnaître à la fois nos manques, oui, mais aussi reconnaître qu'au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose qui est de l'ordre de Dieu, quelque chose qui est au moins comme un germe, une capacité à être source de vie, une source de bonté, une source d'action juste. Et donc Siméon est là, dans cet entre-deux. Il attend l'action de Dieu pour lui et pour les siens. Et dans le même temps, il agit pour améliorer le monde, pour améliorer le sort de ceux qui lui sont confiés, de son peuple, par sa propre action, par l'action juste. Il agit, mais il attend quand même quelque chose de plus, quelque chose d'inconnu qui dépasse infiniment tout ce qu'il a pu savoir, espérer, quelque chose qui n'est pas à la portée de l'humain. Il attend le salut de Dieu. Comme Siméon, nous pouvons attendre de Dieu qu'il nous surprenne. Et avec Dieu, nous pouvons essayer de surprendre le monde par notre capacité à créer, à aimer, à pardonner. Peut-être que la meilleure traduction du mot « évangile » n'est pas la bonne nouvelle, mais la bonne surprise. En effet, la meilleure et la plus surprenante des surprises vient de Dieu, car il est source de bonté, il est source d'une nouveauté qui dépasse tout ce qu'il est possible d'imaginer. Siméon nous dit que ces bonnes surprises qui viennent de Dieu ne sont pas une vague espérance pour un au-delà utopique, mais qu'elles sont à attendre pour maintenant, dans notre vie très concrète, dans ce chemin que nous accomplissons sur terre. Et la façon dont Siméon attend le salut de Dieu permet déjà à Dieu d'exaucer cette espérance. Déjà, son espérance du salut de Dieu lui permet de nourrir finalement sa façon qu'il a d'agir dans le monde pour que le monde soit un peu plus juste demain qu'aujourd'hui. Et c'est déjà immense. Mais la bonne surprise du salut de Dieu est infiniment plus que cela encore. C'est le miracle de la venue du Messie, d'un salut radical, inespéré, qui dépasse notre petit cercle de famille, de ceux qui nous entourent et nos petites actions. Et lui, Siméon, il peut voir ce salut de ses propres yeux, il peut le tenir dans ses bras. La première surprise, c'est que ce salut est un bébé, un petit salut en herbe, mais un immense salut bien réel, bien concret, à saisir dans ses bras. Un salut à attendre aussi, encore et toujours, mais un salut qui est pourtant là, déjà, tout entier. Il est juste à soigner encore, à nourrir, à protéger, à recevoir. Dès que Siméon reçoit ce salut, il a une autre surprise, nous le voyons dans ce texte. C'est que le Christ est un salut paradoxal. Voilà ce que dit Siméon. Cet enfant, il est destiné à amener la ruine et la résurrection d'une multitude en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Cette ruine et cette résurrection, c'est un salut qui traverse toute personne. C'est une puissance de purification et de résurrection à recevoir aujourd'hui et maintenant, aujourd'hui et chaque jour de notre vie. Ce salut, c'est la naissance et la résurrection de certaines qualités d'être insoupçonnées qui nous permettront de nous épanouir vraiment, d'être enfin le nous-mêmes que nous pouvons être. Et c'est alors que nous serons enfin pleinement vivants, ressuscités. Mais avant, n'est-il pas nécessaire de vivre la ruine de certaines façons d'être détestables qui nous parasitent ? Amen.